Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 60. L'archiviste Karine Fogler, la mémoire institutionnelle. Ah, chers amis, bonjour. Alors, la mémoire institutionnelle à Strasbourg et dans toute l'Eurométropole, mais excusez-moi, est-ce que quelqu'un là dans le studio aurait vu mon truc? Vous savez, ce dossier que je garde au cas où, c'est un truc que je trouve hyper important. Enfin, alors ça fait plus que 10 ans, mais qu'est-ce que je dis, 20 ans, 30 ans que j'ai ce dossier. Alors, je savais bien qu'un jour, je m'y intéresserais. Et voilà, c'est aujourd'hui et je ne sais plus où il est. Alors, c'est un dossier avec une, je ne suis pas sûr, hein, mais une trentaine de feuilles. Bonjour Karine Fogler.
Bonjour Ambroise.
Aujourd'hui, dans vous l'avez bien connu, l'émission de Radio Strasbourg Judaïka, vous êtes la responsable aux archives municipales de la collecte donc des archives de Strasbourg et de l'Eurométropole. Alors, vous ne l'avez pas vu, mon dossier?
Non. Non, mais si j'avais été là, j'aurais peut-être pu aider à ce qu'il ne se perde pas, ce dossier.
Justement, parce que j'ai tellement d'affaires. Alors, il raconte toute l'histoire, mais c'est embêtant parce qu'on le garde pendant si longtemps. Et là, aujourd'hui, il est introuvable. Donc, la couverture est jaune. J'aurais peut-être dû mettre un titre dessus, ou alors le sujet, ou alors le thème, et la date. On met la date hein, sur les dossiers, je pense, hein, et tout ça. Alors, vous savez, bon, cela a toujours été le bazar sur mon bureau. Alors, je ne sais pas si ma maman et mon papa sont en train de m'écouter, mais mes parents me disaient « il faut que tu ranges, Ambroise », surtout que je partageais ma chambre avec mon frère. Donc, voilà, si tu ne trouves, sinon tu ne trouveras plus rien. Range ton bureau, on croirait un musée. On croirait les archives municipales. D'ailleurs, on m'avait fait une blague. On m'avait glissé sur... Alors, moi, j'avais à côté du lit des piles de bouquins, de choses comme ça. Et alors, c'était marqué... Alors, tout en bas, mon frère, il m'avait marqué « néolithique ». Puis au-dessus, la, 30 cm au-dessus, époque romaine. Puis Moyen-Âge, Renaissance, Révolution, 20e siècle. Et moi, j'avais répliqué... Alors, j'avais mis une affiche en mettant sur la porte « Camouflage et planquage sont les deux mamelles du rangement ». Alors, merci à Maximilien, je crois, Sully, Maximilien, le ministre de Henri IV. Cette petite phrase, par exemple, est-ce qu'on la trouve dans les archives, je sais pas, à Paris ou les archives royales?
Alors, on la trouve sans doute quelque part, mais c'est surtout une excellente introduction, je dirais, pour des étudiants en archivistique et leur dire que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc, l'apprentissage du métier d'archiviste est justement à l'antithèse de cette phrase.
Donc, du camouflage et du planquage.
On ne camoufle pas, on ne planque pas. Le métier d'archiviste est celui qui va être là pour opérer une collecte, mais une collecte qui est tracée, cet affreux mot de traçabilité qu'on va retrouver maintenant depuis une bonne vingtaine d'années dans la gestion du risque, mais c'est la base même et l'origine même du métier d'archiviste. On trace les informations pour prouver où elles sont et les retrouver quand on en a besoin.
Bon, bah alors moi, ce dossier, je ne le retrouve pas. Alors vous savez que dans notre émission, à chaque épisode, on s'intéresse au temps perdu. Et au jeu du hasard, nous explorons nos trous de mémoire et nous courons après le temps de Proust, de Modiano. Nous racontons des histoires avec des fantaisies, des impostures. Et je me demande donc, chère Karine Fogler, puisque vous êtes l'archiviste, la mémoire de la ville, si une société pourrait vivre... résolument tournée vers son avenir, sans puiser dans les racines de son passé. Alors, cette question, C'est la tarte à la crème des banalités. Hein. Je vous vois sourire et piaffant d'impatience de répondre. Mais la règle du jeu dans cette émission, alors Jean Renoir, la vie est une scène de théâtre, comme chez Shakespeare. Donc la règle du jeu de ces interviews, ce n'est pas de répondre à des questions. C'est de vous laisser parler. Mais vous n'allez pas échapper aux questions. Alors, est-ce que la différence entre un musée et des archives publiques, municipales, départementales, c'est que dans un musée, on conserve ce que l'on estime beau et intéressant, et que dans les archives, on garde tout parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, en 2024, ce que l'on estimera beau et intéressant, par exemple, dans 100 ans, en 2124. Dans un musée, on achète ou on reçoit du matériel et on le conserve, on l'étudie, on l'expose, on s'éduque, on prend du plaisir à voir les choses et on appelle cela le patrimoine. Alors que dans les archives, alors je me trompe peut-être, mais on classe, on fait des listes et puis on empile les cartons numérotés les uns par-dessus les autres et puis... Il n'y a que vous qui pouvez retrouver, si jamais vous savez encore où c'est.
Bon. Carton et information électronique.
Ah, j'insiste, on est en 2024. Numérique. Oui, il n'y a pas que des cartons. Oui. Alors bientôt, aux archives municipales, ce sera une petite pièce de 22 mètres carrés avec que des clés USB sur les étagères.
Encore moins matériel que ça.
Ah, bon. Alors, à Strasbourg, aux archives, vous avez les 4 C. Alors, les 4 C, c'est très alsacien. Hein. C'est comme choucroute, cigogne, cathédrale et... 4e C, c'est connard. Non, excusez-moi pour le gros mot, mais c'est le mot qui est le plus employé avenue des Vosges dans les embouteillages qui sont faits exprès hein, pour qu'on roule à vélo. Hein. Alors, aux archives, vous avez les 4 C, collecte, classement, enfin collecter, classer, conserver et... Communiquer. Donc, on va voir que finalement, les archives, ce n'est pas un lieu fermé. Alors, est-ce qu'aux archives, si personne ne consulte un papier pendant, disons, 20 ans, vous vous dites, ah, ça n'intéresse personne, on peut le jeter pour faire de la place. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans les bibliothèques. Hein. Si un livre n'a pas été demandé pendant un an, oust, le livre, il dégage.
Il passe en désherbage en bibliothèque.
On appelle ça le désherbage.
Le désherbage, c'est le terme voilà, dans les bibliothèques. Donc, on ne date pas le même dans les
donc
archives.
Donc le blé en herbe de Colette, personne ne l'a lu. Et alors, jeunes gens, c'est un petit peu salace ce livre. Je vous promets, même si c'est Colette, ça vous raconte comment on fait pour draguer à 16 ans. Donc c'est formidable. Donc le blé en herbe, personne ne l'a sorti pendant un an. Oups, on désherbe.
C'est ce que mes collègues en bibliothèque font. Clairement. En archive, on va avoir une autre approche, mais on en parlera.
Voilà. Alors, quand une pièce d'archive est rare, est-ce qu'on en fait une copie? Est-ce que des archives permettent de régler des problèmes irrésolus dans de nombreuses années beaucoup plus tard? Par exemple, des enquêteurs de la police, hein, comme dans une série télévisée, pour des cold cases, ou alors des familles qui cherchent à comprendre leur culpabilité collective après avoir découvert qu'un ancêtre avait fauté. Hein, vous imaginez le grand-père strasbourgeois qui avait été SS et que toute la famille avait oublié. Puis on va aux archives et on trouve une liste et on dit « Ah, bah c'est lui !» Alors, être collecteuse ou collectionneuse, hein, c'est le film de Romer, ou archiviste qui collecte, est-ce que quelqu'un qui attend dans son bunker, hein, vous êtes là, vous attendez qu'on vous apporte des trésors, ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui va chercher ces vieux papiers? Y a-t-il une hiérarchie dans les archives, les papiers très importants, des traces, hein, comme on a dit avant, ou même des papiers qui doivent rester secrets? Y a-t-il pour des papiers, alors pour les élus par exemple, hein, le maire, les adjoints, les archives qui... Alors ce sont les maires et les adjoints qui n'ont pas été réélus, hein, donc ils sont obligés de dégager leur bureau, ils apportent tout aux archives municipales. Est-ce qu'il y a des notions de confidentialité alors classement, j'imagine, les archives professionnelles, les archives privées. Et puis, comme toujours, je dis professionnel, privé et secrète. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des délais de communicabilité? Ce qui renvoie au thème de notre émission, la mémoire, la fuite du temps perdu, le jeu du hasard et des découvertes. Et qu'est-ce qu'un document authentique ? Alors, est-ce que c'est un original qui répond à une demande administrative pour apporter des preuves ? Parce que, bien sûr, on peut toujours faire, on peut tricher, hein. On a toujours envie de bidouiller si on veut laisser une trace positive de son passage sur Terre. Est-ce qu'un archiviste travaille tout seul ou bien avec d'autres organismes comme la DRAC ou les archives nationales ? La personne publique qui dépose donc les archives sur son mandat, par exemple, cette tentation de bidouiller, est-ce que l'archiviste est un historien qui permet de déceler justement cette façon de se rendre tellement important, voilà. Et est-ce que à la maison, l'archiviste Karine Fogler a des archives complètes, des photos, les bulletins scolaires, je vous vois vous marrer, voilà. Alors c'est le cordonnier mal, voilà, chaussé. Est-ce que vous avez des archives complètes de votre famille, de vos enfants, de voilà, là, parce qu'il faut faire de la place, hein, voilà, quand on attend son 11e enfant, hein, bon, les grandes familles, ah, peut-être pas, voilà.
Non, s'arrête-moi avant ça.
Vous êtes arrêté avant. Non, mais je dis ça toujours parce que mes grands-parents paternels du côté des Vosges, ils avaient de chaque côté, il y avait 11 enfants, voilà. Donc ça fait une sacrée série de cousins. Mais c'est très intéressant ça, parce que chère Caroline Fogler, et c'est ma dernière question.
Karine,
pourquoi j'ai dit Caroline ? Ma Karine, ben voyez. Donc ça, c'est encore le truc du temps, l'altération des archives. On prend, voilà, et on déforme, et la déformation devient, c'est comme il n'y a pas longtemps, on parlait de Jodassin. Jodassin, en fait, son nom, ça vient de Odessa, la ville d'Odessa. Et quand son grand-père hein, est arrivé à New York, sur Island, on lui a dit, vous venez d'où ? Odessa. Elle a dit, ah bon, il va s'appeler Dassin. Voilà, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Donc chère Karine Fogler, y a-t-il parmi toutes ces questions l'une que vous jugeriez assez importante pour la ranger dans vos archives ? Heureusement que vous avez pris des notes.
Ah oui, bah alors heureusement. Et puis, Ambroise, vous me mettez devant la réalité de ce qui est mon métier au quotidien, à savoir se retrouver face à une immensité d'informations. Et dans cette immensité d'informations, qui est vraiment propre, je dirais, aux 100 dernières années, donc peut-être un petit peu plus, hein, dans cette immensité d'informations, il faut savoir trier. Séparer l'essentiel de l'accessoire, hiérarchiser, et puis savoir comment s'y retrouver. Donc, avec le magma de questions là que vous me livrez, bah vous me faites faire, en fait, à l'oral, et puis devant ce micro, bah finalement, ce qui est mon quotidien, quoi. Et ce quotidien, c'est ce quotidien d'archiviste. Qu'est-ce que c'est ? Alors, a fortiori, quand on est sur une structure publique, c'est accompagner cette structure pour retrouver au milieu de toutes les informations qui vont permettre d'apporter de la preuve ou des valeurs de début de preuve, qui permettent de prouver que tel bâtiment appartient à mon employeur, à ma collectivité, que tel document permet de prouver l'identité de l'administré de la ville de Strasbourg, permet de prouver que mon collègue qui travaille peut-être avec moi travaille bien avec moi, qu'il a bien une fiche de paye, un bulletin de paye qui lui donnera par la suite droit à la retraite. Donc, mon travail est d'identifier au milieu de toutes les informations celles qui vont avoir une importance pour ces trois types de publics. Et donc, c'est là où on va effectivement déployer toute une série de gestes professionnels qui sont des gestes d'experts qui structurent, qui identifient, qui classent l'information, que ce soit du papier ou, je me suis permise en cours de route de le dire, aussi dans l'environnement électronique et numérique.
Mais est-ce que vous arrêtez le temps en faisant ça ? Est-ce que c'est autant suspends-toi pour dire à ce moment-là, votre expertise, parce que ce que vous avez raconté, ce n'est pas très romantique. Hein. C'est des papiers, donc c'est le cadastre, c'est des choses comme
tout
ça.
Tout à fait.
Voilà, mais donc ça veut dire que c'est fini. Donc à tel jour, à telle heure, Monsieur X est propriétaire de l'appartement Y.
C'est ça. On est là, effectivement, pour photographier une situation à un moment donné T. Donc ça, c'est très, très important. Ce qui veut dire d'ailleurs, de manière plus générale, que des individus, vous, moi, on peut apparaître dans les archives de la ville, dans les archives de n'importe quelle ville, dans les archives de n'importe quelle institution, un peu par accident, par moment. Je me fais une entorse dans un nid de poule qui n'a pas été rebouché sur la route. Je décide que je vais aller ronchonner, aller éventuellement jusqu'au litige, au contentieux avec la ville qui n'a pas rebouché. Mon nom va apparaître. Si je vais au bout de la démarche, mais c'est accidentel.
Et donc, dans 50 ans, on saura que je me suis foulé le pied dans ce trou.
Si ça donne lieu à une expertise d'assurance, si ça donne lieu, effectivement, à des échanges de courriers, de courriels. Donc, je veux apparaître de manière accidentelle, effectivement, dans les archives.
Mais alors, vous êtes une complice de toutes les délations.
Ou pas. Et c'est là qu'on va avoir peut-être un deuxième aspect que vous évoquiez, cette question des secrets qui peuvent exister. Alors, il y a tout un mythe, hein, très souvent véhiculé d'ailleurs autour des archives du Vatican, hein, et puis des archives de manière générale, les grands mythes qu'on est censé, les grands secrets qu'on est censé avoir dans les archives. La réalité est beaucoup moins sexy que ça, utilisons le terme. Quand on brasse des documents administratifs, quand on brasse ces éléments d'échange, il n'y a que rarement des très grands secrets au sens de croustillants, comme on aimerait sans doute l'entendre. En revanche, la loi nous amène à mettre en place, quand il le faut, un certain nombre de délais de communicabilité qui assurent une confidentialité. Alors, pour faire court, en gros, en France, c'est tout est accessible dans les archives publiques, sauf. Et c'est là où on a 5 secrets que la loi nous définit, dont les 2 principaux sont les secrets de la vie privée ou les secrets, par exemple, commerciaux et industriels qui pourraient nuire, si on a, par exemple, à l'équilibre économique d'une entreprise qui soumissionnerait dans le cadre d'un marché public.
Donc, ce sont les brevets industriels.
C'est des brevets, des procédés qui sont utilisés pour pouvoir répondre à une commande. Le secret de la vie privée, ben, c'est celui qui va... grosso modo, être mis en application quand on est là pour, quand on est susceptible de pouvoir porter un jugement sur une personne, un jugement de valeur sur une personne. Karine Vogler, en tant que telle, si je donne ces 2 informations-là, il n'y a pas de secret, c'est un nom et un prénom. Karine Vogler a été une mauvaise élève au lycée, là on peut commencer à porter un jugement sur moi. Karine Vogler a été une mauvaise élève au lycée et en plus est totalement indisciplinée dans le cadre professionnel. Bon, alors là, on a du vrai jugement. Là, à ce moment-là, si ces informations apparaissent par un document, une donnée ou des groupements de données, on va appliquer un délai de communicabilité qui est fixé par la loi. Et c'est la loi qui fixe ces applications. Ça va de 25 ans jusqu'à un petit peu plus de 100 ans en fonction de la nature
de secret. Après le décès de la personne ou...
Alors ça peut être après le décès de la personne, ça peut être à partir de la date de l'information. Plusieurs cas de figure sont possibles, donc en fonction de la situation. Donc voilà, donc notre travail, il est aussi là, c'est-à-dire au-delà de la collecte, d'une vraie collecte ciblée qui n'est pas tous azimuts et qui a vraiment un bien fondé, qui est ce bien fondé effectivement de l'authentique, et puis vous évoquiez le terme, de l'information authentique qui va apporter de la preuve administrative et autres. Mais il y a cette nécessité de dire, il y a une loi sur la transparence administrative, on va assurer cette transparence, mais quand il faut protéger, on va protéger en appliquant ces délais de communicabilité, mais ils ne sont pas infinis. Ils finissent tous par tomber à un moment donné. Et c'est le travail aussi de l'archiviste que ensuite de faire rebasculer un document qui était incommunicable en document communicable.
La législation, justement, a pas mal évolué. Par exemple, le droit de filmer maintenant dans les tribunaux, ça a été avec le procès Papon à Lyon, où jusqu'à présent, aucune caméra n'avait le droit de rentrer aux assises. Et maintenant, on a dit, on le filme et on verra ça dans 50 ans. Et puis finalement, au bout de 10 ans, on a eu le droit de le voir. Bon, c'est très bien pour la mémoire collective et la connaissance. Mais là, ce que vous me dites, c'est assez administratif. Est-ce que de façon un peu plus, je ne sais pas, romanesque, pour quelqu'un qui aurait envie d'être... enfin, je sais pas, c'est pas seulement pour le roman de la famille, j'aime bien cette expression. La dame qui a son carnet intime, secret, son diary, je ne sais jamais le mot en français.
Son journal intime.
Et le journal intime. Et elle va raconter que ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Et elle ne veut pas foutre le bazar dans la famille, donc elle dit rien. Mais elle a quand même envie qu'un jour ça se sache, et donc elle va vous déposer son journal intime et dire dans 70 ans vous pourrez l'ouvrir, et donc mes arrière-petits-enfants pourront savoir que leur grand-père ou leur arrière-grand-père, ben c'est pas le salopard d'alcoolo qui me battait tous les soirs, mais c'est le facteur qui venait me consoler tous les matins. Non.
Alors effectivement, dans un service d'archives comme celui dans lequel je travaille actuellement, on a essentiellement des archives publiques, donc ce type de carnet ne devrait pas s'y trouver. Sauf que nous acceptons aussi un certain nombre de dons, de dépôts, d'archives privées, quand elles viennent éclairer en fait nos propres fonds d'archives publiques. Et quand ce type de carnet va nous arriver, parce que ça arrive, hein, qu'on ait ce type de carnet, ou des lettres ou autres, il peut y avoir la simple facturette sur laquelle est mentionné le nom avec qui on a mangé aussi, et puis qui peuvent laisser des traces, voilà, qui pourraient être interprétées, ça va être dans le cadre du contrat qui va nous lier à la personne, qu'on peut définir un délai spécifique. La personne reste à ce moment-là maître du choix de donner en communication, de pas donner en communication. C'est la grande différence entre des archives publiques où c'est la loi qui décide, et finalement ces archives du secteur, du domaine privé, où c'est la personne en elle-même qui va pouvoir décider de l'accessibilité.
Donc ça, ça ouvre les portes, ça veut dire que les gens viennent... j'avais posé la question, vous êtes assise dans votre bureau et les gens font « Bonjour, j'ai quelque chose à vous apporter » ou est-ce que vous allez quand même chercher les choses ?
Alors, quand il s'agit, là encore, des archives de l'administration, ces archives institutionnelles, c'est une collecte qui est ce qu'on appelle 100% proactive. On va aller chercher, on cherche à cibler l'important, l'information importante. Parce qu'il y en a tellement, et elles ne peuvent pas nous échapper, elles ne doivent pas nous échapper, on va la chercher. C'est notre expertise d'aller cibler l'information qu'il nous faut, qu'il faut à la collectivité, à l'administré et puis à l'ensemble de ses employés. Donc là, on est sur quelque chose qui est une vraie politique proactive qui est définie. Et ensuite, il va y avoir les archives privées, celles qui peuvent nous venir dans le cas de dons, comme je disais, ou de dépôts. Et là, on va avoir des orientations, mais de temps en temps, on va ressortir sur un secteur. Donc actuellement, par exemple, il y a le secteur de la collecte sportive qui est entamé avec les Jeux Olympiques. Donc c'est une grande opération nationale qui a été lancée par le ministère de la Culture. Donc là, on va avoir ce type de collecte proactive, mais on laisse aussi venir à nous des gens qui ont un intérêt pour le territoire à travers leur métier, à travers la vision qu'ils en ont eue. Ça peut être des architectes, des politiques, des enseignants, etc. Et qui ont été des personnes importantes pour le territoire. Et quelquefois, ça peut être même des personnes tout à fait anodines, mais où peut-être par un profil, on va arriver à compléter une vision des choses. Alors ça peut être, comme j'ai pu le voir sur d'autres postes avant celui-ci, des commerçants. Plusieurs commerçants, petits commerçants, petits artisans qui vont déposer leurs archives. Et c'est par ces petits bouts qu'on va arriver à faire, par la suite, un fond, des sources pour pouvoir écrire l'histoire du commerce, l'histoire de la métallurgie artisanale, etc., etc.
Mais alors, il y a quand même un télescopage entre ces archives officielles que vous allez chercher et puis les archives, disons, alors semi-privées ou privées. Je prends un exemple, une délibération du conseil municipal de Strasbourg, mais auparavant, Madame le maire et deux ou trois adjoints de son groupe, ils vont discuter en disant on va faire ça, on va leur céder ce petit truc, on va leur dire oui à ça, mais l'important c'est de dire non au point 17 et 22. Il y a probablement quelqu'un qui prend note. Est-ce que vous arrivez à avoir ces archives, disons, moins officielles?
Oui. Alors, il y a deux aspects. Alors, le télescopage entre le public, la collecte d'archives publiques et la collecte d'archives privées, c'est un faux télescopage parce qu'il a le même objectif, c'est éclairer la connaissance d'un territoire, d'une compétence. Voilà. Donc là, il y a vraiment une jonction entre les deux. Ça, c'est pour le premier aspect. Le second aspect, quant aux documents qui sont des versions finalement provisoires, annotées, des brouillons, on ne va pas tout conserver. Ce n'est pas possible. La production informationnelle est tellement énorme de nos jours, en papier, en numérique, avec tellement de supports, qu'il y a une nécessité d'éliminer des archives. Et là aussi, donc, c'est notre autre grande mission, c'est d'identifier ce qui est à éliminer. Mais on ne va pas décider ça souverainement, comme ça, chacun dans notre coin, ou sur ordre, élimine-moi ceci parce que tu es l'archiviste de ma ville. Non, là, nous avons des textes qui sont là, qui nous accompagnent, qui nous guident, premier point. Et ensuite, nous demandons des autorisations de destruction pour les archives publiques aux représentants du préfet. C'est-à-dire que non seulement dans un service archive, on va conserver tout ce qui va être utile pour l'histoire, pour les éléments de preuve du quotidien, mais on va aussi garder tout ce qui aura été éliminé. Et là, c'est pour bien prouver que ce n'est pas pour embêter, ce n'est pas pour nuire, on est bien là pour nettoyer et garder l'essentiel.
Comme un journaliste qui fait une sélection d'informations, parce qu'autrement, il lui faudrait 200 pages dans son journal. Alors, le dernier C, c'était communiquer.
Oui.
Donc, faire des expositions, c'est un petit peu le côté musée des archives.
Alors, les quatre C qu'on a évoqués, dans communiquer, on n'a pas ces expositions. C'est un petit supplément qui se rajoute depuis quelques années, qui sont les quatre C et le V pour valoriser. Et oui, ça fait partie de nos missions, de missions de valorisation après avoir collecté, après avoir classé, après avoir veillé à ce que ce soit bien conservé et communiqué sur besoin. On va effectivement valoriser par des expositions, par l'accueil de public, alors tout particulièrement les publics des enfants, des jeunes, pour pouvoir illustrer notamment leur programme scolaire.
Ça, c'est la vulgarisation des archives.
C'est la vulgarisation.
Mais il y a aussi des chercheurs, des universitaires.
Et on a ensuite, effectivement, dans nos salles de lecture, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, on accueille gratuitement, mission de service public, hein, 100% gratuite, tout chercheur, qui peut être un universitaire, un étudiant, un lycéen qui monte son dossier, ou même monsieur tout le monde qui a envie de faire sa généalogie ou compléter son histoire, ils sont accueillis dans nos salles de lecture et accompagnés par des spécialistes, des archivistes qui sont là pour les orienter, ne serait-ce que dans nos inventaires.
Alors, est-ce que tous les archivistes ont le même état d'esprit ? Est-ce que vous faites des réunions comme une réunion de rédaction où on dit, voilà, la ligne du journal, ça va être ça ? Est-ce qu'il y a la ligne des archives ? Alors, bien sûr, ça évolue parce que les gens partent et tout. Est-ce que vous avez une espèce d'harmonisation du rôle de votre rencontre avec le public ?
Alors, il y a nécessité de le faire. Il faut quand même savoir que, comme dans tout domaine, nos métiers ont des spécialités. Entre un archiviste numérique et un archiviste spécialiste du Moyen-Âge, nous ne parlons pas tout à fait la même langue.
Vous n'avez pas tous fait l'école des chartes.
Nous n'avons pas tous fait l'école des chartes. Et le domaine dans lequel on va intervenir ne requiert pas les mêmes compétences. Donc, on va harmoniser à travers les politiques d'ensemble, une politique d'accueil, une politique d'archivage. On va harmoniser évidemment l'accueil et la satisfaction de nos missions. En revanche, les sensibilités vont être différentes. Et c'est tout l'intérêt d'un vrai management, d'après l'équipe.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment comme exposition en rentrant aux archives ?
Alors, pour le moment, nous n'en avons pas. Donc, voilà. Mais nous allons très prochainement communiquer. Elle est en train de se monter, donc elle est encore bien en secret et en germe.
Merci beaucoup, Karine Fogler. C'était l'épisode Merci numéro 60. L'archiviste Karine Fogler, la mémoire institutionnelle. Alors, les archives, alors je résume, hein, on garde tout ou presque tout pour nos petits-enfants et les petits-enfants de leurs petits-enfants, et presque tout est important. Bon, vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin. Souvenez-vous-en dans 100 ans.